Bonjour, ici Radio Grand Ciel pour notre émission Histoire et Mémoire. Nous accueillons à nouveau notre spécialiste du Noir, Jean-Claude Galerne. Bonjour Jean-Claude, de quoi vas-tu nous entretenir aujourd'hui ? À quel sujet ?
De la petite commune de Marboué, donc, qui a une belle histoire et nous allons en parler.
Nous t'écoutons donc.
Alors, Marboué, c'est une petite commune d'à peu près 1000 habitants. Elle n'a pas tellement évolué depuis les années 1800. Mais elle a une continuité. Et quand on parle de Marboué, évidemment, un nom revient. C'est le nom du comte Rey. Tout le monde à Châteaudun et à Marboué se souvient du comte Rey, qui habitait pratiquement toute l'année dans sa propriété des Coudreaux. Ça a été le maire de ce village de 1935 à 1977, élu à 29 ans, plus jeune maire du département. Un passionné de football, président de l'ASJ Châteaudun, club légendaire de Châteaudun, dont les frères Provost, Bébert et Bébert Provost, ont fait la renommée. Mais ils en parlaient toujours du comte Rey avec un grand respect. Et on voyait encore le comte au Stade Saint-Jean assez souvent dans les premières années de l'ECC, dans les années 60. On lui doit beaucoup de choses au comte Rey. On lui doit notamment d'avoir, dès son arrivée à la tête de la commune, d'avoir lancé le projet de la piscine. C'est une des premières piscines de la région en bassin fermé. Châteaudun n'avait pas de piscine. Il y en avait une à Marboué. Et le comte Rey a réussi, en 1938, à faire réaliser les travaux de façon exemplaire par une entreprise de Cloix, c'était M. Macky, et en 6 mois, entre le dépôt du projet, où les enfants de Marboué pouvaient se baigner au mois de juillet 1938 dans ce bassin. Et en plus, le comte Rey avait réussi à attirer la lumière sur son village parce qu'il avait des contacts avec un chansonnier qui s'appelait Dédrizel. Dédrizel est un chansonnier fort connu parce qu'il participait à l'époque depuis les années 30, il participait à la famille Duraton. La famille Duraton, c'était un feuilleton radio que tout le monde suivait. Les anciens, et je me souviens de mon grand-père, il n'aurait pas manqué un soir la famille Duraton. Et cette famille Duraton, c'était Dédrizel. Et Dédrizel, d'ailleurs, avait à une époque investi dans un cinéma à Châteaudun, dans le Pax. Il avait plus ou moins la propriété de ce cinéma. C'était un acteur assez connu et il a mis l'éclairage sur Marboué en faisant plusieurs films. C'était Piedalu, le personnage. Et Piedalu, il habitait un village qui s'appelait Marboué-Chambourcy. Et il avait poussé donc ce Piedalu, entre guillemets, l'audace d'aller à Paris rencontrer le ministre de la Rénovation pour lui proposer un projet. Et d'ailleurs, dans ses différents films, puisqu'il va faire 3 films sur Marboué, donc Piedalu va à Paris, Piedalu fait des miracles, et Piedalu, maire et député. Donc on voit tout de suite un petit peu l'empreinte du contraire derrière tout cela. Il n'a jamais été député, le comte Rey. Mais Piedalu fait des miracles. Et qu'est-ce que ce miracle ? Eh bien, Pidalu, notre brave agriculteur de Marboué, a trouvé une fortune en pièces d'or dans un cadre de bicyclette. Et au lieu de le garder pour lui, ce trésor, il va en faire profiter la commune. Et que va-t-il faire? Il va le faire creuser une piscine. Donc nous sommes en 1952, sachant que le comte Rey a fait faire sa piscine en 1938. Donc on voit un peu le copier-coller de Pidalu et du comte Rey. Donc, évidemment, Desdrizel va être un hôte bien reçu au château des Coudreaux. Et cela ne déplaira pas, évidemment, au comte Rey que l'on mette un éclairage sur sa petite commune. Le comte Rey a beaucoup aimé cette commune, puisqu'il repose au cimetière de Marboué. Donc, la famille Rey a marqué le village de Marboué. Il faut savoir aussi que la gare de Marboué donc, a été installée sur les terrains donnés par le comte Rey, comme la piscine d'ailleurs. C'était des terrains qui appartenaient au comte, et le comte en a fait don à la commune. Donc c'était des gens dits d'ancien régime, si on veut, mais qui ont apporté beaucoup. Parce que on parle de l'ancien régime quelquefois avec en jetant un petit peu d'anathème sur ces nobles, comme on disait. Mais combien d'enfants allaient mendier le jeudi aux portes du château pour aller chercher du pain, même dans les années 1900-1910. Tout ça, il ne faut pas oublier tout cela. Il y avait une solidarité malgré tout, elle n'était pas toujours que dans un sens. Alors cette famille Rey, là, évidemment, elle marque complètement son temps. Savez-vous que les deux cloches qui sont actuellement dans le clocher de Marboué, eh bien, ce sont des cloches qui portent les noms de Charles et de Victoire. Évidemment, famille Rey, Victoire, c'est Victoire Masséna, la fille du grand maréchal de l'Empire. Et la deuxième cloche porte le nom de Anne Masséna. Donc la famille Rey étant donc associée à la famille Masséna, on en trace encore aujourd'hui de ces deux cloches qui sont donc Charles, Victoire et Anne Masséna. Donc, et elles sonnent très bien, ces deux cloches. Et puis on remarquera, au passage, que les clochers de Marboué, de Cloix et de Saint-Valérien se ressemblent. Quand on les regarde tous les trois, on s'apercevra que c'est le même maître compagnon. On ne disait pas architecte en ces temps-là, mais c'était un maître compagnon qui a dirigé les travaux de ces trois chantiers. Alors, cette famille est arrivée comment à Marboué? Alors, à l'origine, au château des Coudreaux, dans les années 1800, on trouve le maréchal Ney. Le maréchal Ney a acheté cette résidence, cette maison, parce qu'il y a un parc, il a trouvé la tranquillité, il a trouvé le charme de cette campagne. Alors il y venait assez souvent. Hélas, le maréchal Ney n'a pas fait le bon choix lors des 100 jours. Et il s'est porté pour arrêter Napoléon. Et malheureusement pour lui, ou heureusement, on ne sait pas dire, il s'est rallié à Napoléon. Et on sait ce qui s'est passé. Le maréchal Ney a suivi Napoléon jusqu'à Waterloo. Et comme c'est un personnage célèbre, le maréchal Ney, il s'est verbalement un peu engagé en disant qu'il ramènerait l'empereur dans une cage à Louis XVIII. Et il ne l'a pas ramené puisqu'il l'a assisté à Waterloo. Mais malgré tout, à Waterloo, le comte Rey est aussi à Waterloo. Et il commande l'aile gauche. Défaite le 18 juin 1815. C'est un 18 juin. Eh oui, c'est 1815. Il pleut terriblement. Ney commande pas les charges qu'il faut, Napoléon perd la bataille de Waterloo, et évidemment, le maréchal Ney va être reconnu coupable par Louis XVIII qui revient, et on va le fusiller. Oui, mais cela veut dire qu'il n'y a plus de propriétaire à Marbouët, puisqu'on a fusillé le propriétaire. Eh bien, le Contreil, le général Rey, qui lui, par miracle, a échappé à la disgrâce, va acheter les Coudreaux et va arriver aux Coudreaux. Et il cherche une résidence secondaire pour lui, le général Rey, pour sa charmante épouse, parce qu'elle a épousé mademoiselle Victoire Masséna, fille du maréchal Masséna, prince d'Essling et duc de Rivoli. C'est quand même une belle carte de visite, cette demoiselle Masséna. Et en plus, elle a 20 ans de moins que le Contreil. C'est une bien jolie personne. Donc, pour cette bien jolie personne, il va lui acheter une maison de campagne qui va s'appeler les Coudreaux à Marbouët. Et l'histoire donc, de la famille Rey à Marbouët commence à ce moment-là. Donc, notre mère de Marbouët, que nous avons pour certains connue, venait de cette grande famille. Grande famille, quand on a dans sa généalogie les noms de Rey, général d'Empire, et Masséna, maréchal d'Empire, c'est quand même prodigieux. Et derrière lui, ce Contreil, évidemment, il a trouvé à Marbouët des gens qui étaient avec lui dans les troupes napoléoniennes. Et en cette année 1836, il va y avoir un drame important et le maire de l'époque est tenu par Jean-Jacques Galerne, un de mes ancêtres. Jean-Jacques, c'est un ancien officier d'Empire. Il est en demi-solde. Il a fait la plupart des campagnes napoléoniennes. Et Rey, évidemment, lui fait confiance et il va faire ce qu'il faut pour qu'il soit maire de la commune. Alors, évidemment, être maire d'une commune comme Marbouët, ce n'est pas toujours facile. Et il vaut mieux avoir de bons appuis. Alors, quand on a l'appui du châtelain, cela se passe toujours beaucoup mieux. Le maire est en place en 1836. Il a accueilli un jeune curé en 1832, qui restera 28 ans à Marbouët quand même, qui a remplacé ce vieux curé aimable Rousseau, qui était là depuis 1804 et qui s'est éteint dans sa paroisse à 81 ans après 28 ans de service. Cet abbé, qui vient d'arriver là, frais et moulu, s'appelle Louis-François Motu. On en reparlera plus tard, mais il fera une belle carrière aussi, parce qu'il fera aussi 28 ans de service et mourra dans sa paroisse en 1860. Rendons-nous compte, à l'époque, deux prêtres vont servir l'Église de 1804 à 1860. C'est absolument fabuleux. Mais, à l'époque, le maire assure la sécurité. Aujourd'hui, on dit il faut renforcer la sécurité. Mais savez-vous qu'à Marbouët, en 1836, la garde nationale de Marbouët compte 120 hommes et 56 réservistes. La garde nationale de Marbouët. C'est absolument fabuleux. Donc quand on parle de sécurité, bon, c'est vrai qu'ils font aussi office de pompiers. Mais quand on parle de sécurité, ça fait 176 personnes qui servent la commune, sous les ordres du capitaine Mérite. Donc, c'est quelque chose d'important pour un maire d'avoir une compagnie de sécurité comme ça. En résumé, tout va bien, mais l'orage va venir. L'orage va venir en 1836. Alors, que va-t-il se passer en 1836? Eh bien, vous le saurez après la pause musicale. Donc le 13 mai 1836, dans la matinée, le garde champêtre vient trouver le maire et lui signale la disparition bizarre de Rosalie Bénard, femme de chambre de Mademoiselle Étienne du château du Plessis. Après son service, elle n'est pas partie se coucher. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et puis, une heure plus tard, on vient signaler la disparition du jeune Constant Guyon. Ah, ça fait beaucoup, deux personnes. L'affaire devenait sérieuse et le garde champêtre va alerter Jean-Jacques Galerne, le maire. Ah. Donc, et puis aussi le capitaine de la garde nationale qui fait des patrouilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère de Constant a bien entendu du bruit du côté de Grélard, un espèce de plouf. Mais c'est tout. Il va donc quand même retourner vers l'endroit. Et au bas de Grélard, il remarque dans l'herbe une casquette, un Christ, une Vierge et un écrit en guise de testament. Qu'avait-il écrit sur ce billet? Du 12 mai 1836 à 2h après minuit, voici l'endroit où deux aimables cœurs ont fini les derniers moments de cette vie. Je vous prie en larmes de m'accompagner au tombeau et à celui de mon aimable amie. Bon cœur, priez pour nous. Je meurs pour elle, elle meurt pour moi. Nous désirons être tous deux dans la même fosse, signé Constant et Rosalie. Il n'y avait pas de doute. Ils étaient tombés dans le Loir. C'était un accident. Ils n'avaient pas pu faire ça. Ils allaient à la messe tous les dimanches, communiaient, de bons chrétiens. Non, non, c'était un accident. Jean-Jacques Galerne fit mettre les aubasses et sonder le Loir. Après moult tentatives, on commençait à désespérer. On chercha. Et le dimanche, on pria longuement l'église pour l'âme de ces deux jeunes gens disparus. Le lundi matin, un peu avant le Gros Marbeau, au troisième coup de filet, on remonta les deux corps liés l'un contre l'autre. Alors, que s'était-il passé? Constant Guyon, fils de petits agriculteurs aisés, encouragé par sa famille, avait demandé Adèle Houdebine en mariage, qui était ma foi un parti intéressant. Et en plus, elle était la sœur du meilleur ami de Constant, Houdebine aîné. Hélas, elle avait préféré un jeune agent des ponts et chaussées, un porte-piqué, disait Constant, mais qui dirigeait quand même les travaux de la construction du pont de pierre, que l'on connaît aujourd'hui, qui enjambe le Loir à Marboué, et cela sous la houlette de M. Guérineau de Boisvillette. Cet agent, porte-piqué, terminera quand même sa carrière comme architecte à Chartres. Constant se lia alors d'amitié avec Rosalie Bénard. Le temps faisant son œuvre, on passa d'amitié à l'affection, puis à l'amour avec un grand A. Et la liaison conduisait, à n'en pas douter, vers un mariage. Elle avait 24 ans et lui 27. Alors on allait convoler. Hélas, ce n'était pas du goût de Madame Guyon-Mère qui voyait pour son fils un meilleur parti, une femme de chambre. Mais tu es malade, mon fils. Il y a bien dans le pays des jeunes filles à marier qui ont un peu de terre en dot. Et toi, tu nous trouves une femme de chambre qui n'a rien. Elle n'est même pas du pays. C'est vrai. Elle était de Saint-Denis-les-Ponts. Mais une famille plus que modeste. Constant a quand même 27 ans, et de nos jours, L'affaire aurait très vite classé, mais on était en 1836. Constant supplia, pria, se jeta aux genoux de sa mère, qui resta inflexible. Constant, tu veux vraiment nous déshonorer. Tu veux que nous soyons la risée de tout le pays. Demain, le déshonneur sera encore plus grand, croyez-moi, murmura Constant désespéré. Constant et Rosalie se rendirent à Châteaudun, où Constant acheta une alliance qu'il mit au doigt de celle qu'il regardait comme sa fiancée pour l'éternité. Son amour pour l'éternité, l'éternité de la mort qu'ils allaient affronter sereinement, puisque la vie leur refusait ici-bas le bonheur. Alors ils le trouveraient là-haut, au ciel. Rosalie ne voyait hélas pas d'autre solution. Ils mourraient ensemble. Revenus à Marboué, ils passèrent la soirée plongés dans des ouvrages de prière qu'ils étaient allés demander à la marraine de Constant, dame dévote de la paroisse de Marboué. La minuit passée, ils se mirent en route par le chemin de Grélard qui longe le Loir. Et arrivés au lavoir, ils mirent leur funeste projet à exécution. Cette disparition fit beaucoup de tapage dans tout le pays du Noix et leurs funérailles furent le prétexte d'un incident sérieux qui eût pu provoquer un autre drame. Le jeune Motu, prêtre des servants, qui est là depuis 4 ans, est bien embêté par cette affaire. Il n'y a pas de doute. Constant et Rosalie sont jetés volontairement dans le Noir. Il ne peut que respecter les lois d'Église et refuser la sépulture chrétienne. D'autant plus que l'évêque était à Marboué, invité chez le Contreil au château des Caudreaux. Et ce n'était pas un tendre, l'évêque. Rappelons-nous, le prélat Chartrain était une rigueur extrême, autant pour ses prêtres que pour lui-même, sur l'observance de la discipline religieuse. 3 ans plus tôt, il avait destitué comme schismatique l'abbé Ledru, curé de Lèves. Monseigneur de Montal fut confronté à une violente émeute qui se termina par le pillage de son palais épiscopal. Mais il ne recula pas d'un pouce. Refusant l'archevêché de Bordeaux, pourtant une belle compensation, et la Légion d'honneur. Aussi, on comprend mieux la prudente réserve du jeune curé de Marboué. Cependant, les événements allaient se précipiter dans le bourg. Près de 3000 Dunois en colère s'étaient rassemblés pour assister aux obsèques. Jean-Jacques Galerne, le maire, se précipite chez le Contreil et le supplie de faire quelque chose devant l'ampleur de l'émeute qui va mal tourner. Le général se retire, parlemente avec l'évêque, longuement, qui finit par reconnaître que Rosalie et Constant ont peut-être été poussés par l'inflexibilité de leur entourage et qu'on saura comprendre le pardon du Seigneur. Et il donne l'ordre à l'abbé Motu de le recevoir en son église. Ainsi furent inhumés dans la même tombe selon leur désir, en présence d'une foule considérable, recueillie et profondément émue, parmi lesquels, pour certains, le remords devait être plus cruel que la peine, les amoureux de Marboué. L'abbé Motu protesta à sa manière contre le passe-droit qui lui avait été imposé en ne dressant pas l'acte d'inhumation. Le maire, Jean-Jacques Galerne, inscrivit dans les registres d'état civil les décès de Constant et Rosalie au numéro 16 et 17 le 16 mai 1836 à 11h du matin et signa. Comme c'était la coutume au temps de Louis-Philippe, où le chansonnier Morinville chantait sur les foires et les marchés les événements du jour, une complainte fut écrite et édité à Paris chez Barde, avec une gravure sur bois. Le Beauceron de Paris, dont le rédacteur en chef était Charles-Marcel Robillard, en 1932, édita cette douloureuse histoire d'amour dans le numéro d'avril-mai, sous la signature d'Albert Sidoine, un chroniqueur bonnevalais bien connu à l'époque, mais ce titre, certes vendeur, n'était pas exact. Les amants de Marboué, non, ce n'étaient pas les amants de Marboué. En ce temps-là, les mœurs n'avaient pas atteint les sommets que l'on connaît. Rosalie et Constant étaient des amoureux. Ils se promenaient main dans la main, souvent aux cachettes, échangeaient quelques baisers et quelques étreintes langoureuses, mais les choses s'arrêtaient là. Elles ne devaient sérieuses qu'avec le mariage, après être passées devant M. le maire et devant M. le curé à l'église. Il n'est pas loin le temps où les jeunes gens et les jeunes filles de moins de 21 ans devaient demander le consentement des parents et, à l'époque des années 50, 20e siècle, vivre hors mariage et se mettre en ménage, comme on disait dans ces temps-là, sans être passé par la mairie et l'église, c'était se mettre au banc des gens bien. Constant et Rosalie, c'était Meyerling en 1836 à Marboué. Alors, jeunes gens, si vous passez un jour par Marboué, si vous passez près de l'église, du cimetière, ayez une pensée pour Constant et Rosalie, ces amoureux, ces incompris, qui, hélas, n'ont trouvé qu'une solution parce qu'on avait oublié de les écouter et de les entendre.
Merci, Jean-Claude. Tu nous contes toujours des histoires de temps en temps très, très pathétiques et c'est toujours la même problématique qui survient de temps en temps dans toutes les familles. Et quelle est la famille où il n'y a pas eu, au moment du mariage d'un des enfants, des tiraillements, mais aller jusque le destin comme Roméo et Juliette, c'est quand même terrible. Alors tu nous as bien conté tout cela en faisant toutes les recherches, aidées par ton ancêtre, et nous t'en exprimons toute notre gratitude. Au revoir, chers auditeurs, chères auditrices, et à une prochaine fois.